Bonjour. Donc, conseillère pédagogique en art visuel, je ne vais vous parler que de l'école primaire. Je vais donc vous parler de l'histoire des arts. Quand on m'a fait cette commande, cette demande, je me suis un peu questionnée comment faire pour aller chercher des expérimentations, des choses qui se passent. En fait, j'avais assez peu de retours, malgré depuis 2008 des formations mises en route. Je vous en reparlerai au fil du déroulé. Mais donc, j'ai proposé aux enseignants une sorte de questionnaire. Vous allez voir un petit peu ce que je leur ai demandé et surtout ce qu'ils ont répondu. Et puis, j'ai sélectionné, on va dire, 5 expérimentations, vu le peu de temps. J'ai essayé de concentrer les choses. Alors, des choses qui me... Vous donnerez votre avis aussi. Des choses qui me paraissent plutôt bien, des choses moins bien. Des enseignants font parfois appel à nous pour les aider, parfois pas. Et je me suis aperçue qu'il se passait des choses intéressantes justement par ce questionnement et cette invitation qui m'avait été faite à faire le tour. Ça va me servir pour l'année prochaine. Donc moi, je suis ravie. C'est un petit bilan. Voilà. Donc... ma posture depuis ces programmes 2008, depuis le BO du mois d'août, j'ai essayé aussi de revenir un petit peu. Qu'est-ce que j'avais fait? Quelle était un petit peu ma position? Donc, sur le département, en fait, je dis beaucoup « je », mais nous sommes 2. Au départ, nous étions 3. Et là, sur les 2 dernières années, les départs en retraite n'ont pas été remplacés. Ce qui veut dire un secteur qui s'agrandit, ce qui veut dire aussi plus vraiment de contact avec les classes, d'où mon grand questionnement sur comment savoir ce qui s'y passait. Donc on intervient en formation, on crée des outils, beaucoup. On a créé un site là depuis le mois d'octobre, parce que voilà, c'est le moyen actuel pour aider les enseignants. Bon, on répond encore au téléphone et par mail beaucoup. Et bon, moi, j'essaie d'aller encore dans les classes parce que je pense que c'est quand même des moments intéressants, mais plus en rencontrant des équipes d'école qui essaient de réfléchir, de monter des projets. Voilà. Donc voilà, la première idée, c'était de créer des outils autour des œuvres et des richesses qu'elles offrent, et notamment tout ce qui était régional, parce que voilà, on s'est dit déjà, dans ces 6 domaines de l'histoire des arts, qu'est-ce qu'on a de façon sûre, de façon proche des écoles. Donc c'était la première année de formation, c'est-à-dire découvrir les œuvres du patrimoine local et comment articuler tout ça. Ça, c'était la première réflexion. La deuxième réflexion, c'était d'impulser des formations interdisciplinaires. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'un peu particulier, peut-être un peu plus personnel, c'est-à-dire que j'ai précédemment, avant que l'histoire des arts arrive, on parlait beaucoup de culture humaniste. Un des piliers du socle, c'était la culture humaniste, et j'avais fait un travail de recherche sur la culture humaniste, justement, comment développer ce pilier-là, comment... L'idée était vraiment que toutes les disciplines devaient concourir à cette culture humaniste. Donc je me suis assez bien retrouvée quand ces programmes-là sont arrivés, c'était un peu la même dynamique. Alors qu'on parlait assez peu de ce pilier, que les enseignants ouvraient des grands yeux en me disant « bon, l'histoire des arts, pour le coup, ça les a remis en route là-dessus, et ce que je pouvais dire avait un peu plus d'intérêt, puisqu'on leur demandait vraiment ça. » Donc voilà. Je vous parlerai de ces situations qu'on peut essayer de mettre en place en formation. Et puis ensuite, j'ai essayé de dédramatiser et puis de leur dire que l'histoire des arts, c'était avant tout un état d'esprit. C'était une façon de voir l'enseignement et que ça pouvait être vraiment une richesse, quelque chose de plus, un plus. Voilà. Et puis, surtout, que cet enseignement, cette nouvelle discipline, parce qu'il y a eu ces mots-là quand même, allait pouvoir permettre de faire vivre des moments forts aux élèves et surtout les rendre curieux. Ça, c'est un discours, bon, je pense qu'on a tous un conseiller pédagogique. Essayer de les rendre curieux, développer des compétences de questionnement. Si on arrive à faire ça avec des élèves du primaire, on peut imaginer que plus tard, ils vont construire eux-mêmes leur culture et ça va aller. Donc ça, c'était un petit peu la posture. Après, bon, voilà, ce BO arrive et on met en route d'autres choses. À partir de justement cet enseignement, les formations qu'on a pu mettre en place, j'ai essayé de me dire, bon, comment je ressens cet enseignement? Quels sont mes constats? Donc, la première chose, c'est que je trouve qu'il y a un énorme paradoxe. J'ai appelé ça le paradoxe du premier degré. On pourrait penser que, alors que au collège et au lycée, il faut que les professeurs se mettent ensemble, travaillent ensemble, donc trouvent des moments où ils vont se réunir dans le premier degré, puisque l'enseignant est polyvalent, il gère toutes les disciplines, ça va être beaucoup plus facile. Et en fait, assez peu mélangent les disciplines, leurs emplois du temps sont vraiment... là, je fais éducation musicale, là, je fais art plastique, là, j'ai maîtrise de la langue, et ils ont du mal à articuler tout ça. C'est vrai qu'en même temps que les programmes 2008 et l'histoire des arts, le grand changement qu'on a pu voir dans les programmes, tout court, c'est une annualisation des matières. C'est-à-dire, mais c'est un complet changement de raisonnement. Ne plus programmer sa semaine, mais programmer son année. Donc là, il y a tout un travail d'aide à la programmation. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça fait déjà 5-6 ans, dans le département, on s'était mis en route sur un passeport culturel qu'on avait voulu comme un outil pour l'élève, cahier de traces, ça on le trouve dans beaucoup d'endroits, mais on avait surtout peaufiné le livre du maître qui se voulait une aide à la programmation. C'est-à-dire bien faire le point sur ce... Bon, au départ, il y a 5-6 ans, on était calé sur éducation artistique, c'est-à-dire éducation musicale et art visuel. Ensuite, là, on a vu les collègues généralistes, on a essayé de les solliciter plutôt, pour que maintenant le passeport devienne histoire des arts, donc il faut un petit peu le remouliner. Mais l'idée était là, c'était une aide à la programmation. Mais ça, c'est vrai que peu d'enseignants se disent je balise une journée par mois où je vais construire un module et où je vais travailler une notion. C'est plus ça, l'idée de travailler par notion, une notion par exemple la notion d'équilibre, on va faire un travail avec le corps, on va faire un travail en art visuel, on va faire un travail aussi au niveau de l'éducation musicale, parce que l'équilibre, ça se travaille partout. Et donc, on va progresser comme ça. Mais là, c'est vrai qu'il y a besoin de formation, il y a besoin de temps, énormément de temps pour monter ces modules-là. Et donc, voilà, c'était le premier paradoxe. Peu d'enseignants du premier degré osent l'interdisciplinaire. On a aussi craint, et c'est vrai qu'on l'a constaté, le gros écueil... Histoire des arts, c'est-à-dire qu'on va proposer des séances histoire des arts au moment des leçons d'histoire, c'est-à-dire qu'on va présenter des œuvres et de façon... j'ai vu des choses où on me relatait des choses, mais c'est... Voilà, on va faire une fiche sur tel tableau ou une fiche sur tel morceau musical qu'on aura écouté une fois... Et on va le consigner dans un cahier, on va l'apprendre par cœur et on saura le redire pendant 3 mois, puis on aura oublié ensuite. Donc voilà, l'écueil, le lien absolu histoire des arts, on le sentait venir, il est venu. Après, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que les enseignants de maternelle, qui au premier abord étaient moins... se sont pas sentis concernés par l'histoire des arts. D'ailleurs, à l'heure actuelle, dans les questionnaires, ils m'ont répondu en disant « Mais nous, on n'en fait pas, mais ce que tu dis, oui, ça nous parle. » Enfin, on n'en fait pas. Et en fait, si, ils rentrent beaucoup plus facilement dans cette dynamique-là parce qu'ils font beaucoup plus facilement les liens entre les arts du langage, les arts du visuel, les arts du son, la danse. Enfin, ils le font naturellement. Et donc, quand on leur dit, mais voilà, vous êtes dans la dynamique d'Histoire des Arts, ils sont un peu surpris. Ensuite, ils comprennent bien l'importance de l'accès aux lieux d'art. Et c'est vrai que l'accent a été mis là-dessus. Aller directement voir, aller au théâtre, aller au musée. Là où ça coince un petit peu, évidemment, c'est toujours les moyens financiers. Et ce que j'ai vu et constaté dans le retour des questionnaires, c'est énormément de projets dans les grandes villes, comme pour moi Nancy, ou Metz, ou les plus grosses villes. Quand il y a une structure culturelle, il se passe des choses facilement, beaucoup plus. Dans les campagnes, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Et en plus, bon, on travaille main dans la main avec la DRAC, hein. Éducation nationale DRAC, c'est vrai qu'il y a un vrai partenariat. Mais les interventions d'artistes dans les classes ont vraiment, vraiment chuté. Au niveau de l'éducation nationale, nous, on n'a plus aucun financement. Autrefois, c'était bien paritaire. Hein, autant la DRAC mettait d'argent pour une intervention d'artiste, autant l'éducation nationale pouvait donner la même somme. C'était vraiment comme ça chez nous, jusqu'à il y a 4 ans. Et ça permettait aux enseignants d'acheter du matériel, des valises de reproduction, d'avancer dans un beau projet. Là, les 25 projets qui sont restés cette année, parce que nos interlocuteurs DRAC nous ont sollicité, dit mais nous, même s'il n'y a pas la parité, alors qu'autrefois c'était s'il n'y a pas parité, on ne marche pas, on sait que vous n'avez plus d'argent, donc on va, nous, avec le peu, on va y aller. Donc les 25 interventions, c'est bien des artistes qui viennent sur projet, des choses qu'on construit, mais les écoles doivent financer tout le reste. Donc font appel aux communes, font appel à des partenaires au niveau du commerce. Comment ? Oui, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves. Donc c'est beaucoup plus difficile et il y a des écoles qui font blocus en disant non, si on ne nous aide pas, on ne va pas faire un moule frites pour emmener les enfants au musée. Enfin, mais bon, c'est vrai, beaucoup le font quand même. Mais là, cette année, voilà, très peu de projets sur un département. C'est quand même un peu dommage. Voilà. Donc voici l'enquête. Je me suis dit, une petite enquête. J'envoie ce questionnaire. J'essaie de l'analyser. Je vais découvrir. Et en fait, voilà, découvrir des pratiques variées, faire de nouveaux constats. Et ça va m'aider aussi pour orienter mes formations. Donc c'était un petit peu pour... Première question, avez-vous mis en place un module Histoire des Arts dans votre classe ? J'ai eu des réponses du style, mais c'est quoi un module ? Bon, voilà, après j'irai expliquer. Si oui, votre module était-il à partir d'une visite, à partir d'une œuvre bien précise, à partir d'un projet ? Ou alors avez-vous un autre point de départ ? Quels outils avez-vous utilisés ? Puisque moi, maintenant, je suis un peu coincée dans ma fabrication d'outils, relations directes difficiles. Donc, faire le point sur ce qu'ils ont utilisé, surtout de quels outils aimeriez-vous disposer. Et puis, bon, si vous avez des remarques à faire. Donc, voilà, sur 700 écoles, j'ai eu 100 réponses, on va dire, ce qui est assez pas... Ouais, voilà. Bon, je me suis pris aussi assez tard. Il va peut-être encore y en arriver. Donc, dans les réponses, ma petite analyse, on va dire, hein, voilà, un retour d'une centaine. Pour moitié, ce sont des maîtres de cycle 3 qui m'ont répondu. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont principalement les directeurs ? Moi, j'ai envoyé ça aux écoles, donc c'est souvent hein, les maîtres de cycle 3 qui se retrouvent directeurs dans l'élémentaire. Est-ce qu'ils se sont sentis plus concernés ? Est-ce qu'ils avaient quelque chose à dire ? Bon, j'ai aussi la moitié... des autres cycles qui ont répondu. Seulement 5 sur la centaine ont reconnu ne pas avoir mis en place du tout ça, et ne pas être compétent, ne pas être formé. Et voilà, non, j'ai pas fait. Bon, ce qui est... Bon, en même temps, je leur disais que ça pouvait être anonyme. Ils pouvaient me le renvoyer comme ça par la poste. Les 3/4 ont répondu par mail. C'est pareil, bon, j'ai envoyé ça par mail. On peut penser que c'est des pratiques courantes, mais il y a encore des enseignants qui sont... un peu réfractaire à tout ça. Peut-être que pour, enfin, si j'avais fait un vrai travail de recherche, il aurait fallu faire un envoi postal encore, enfin. Ensuite, ça m'aura permis de découvrir des pratiques étonnantes que je n'aurais pas imaginées, puis d'envisager le futur. Donc les outils utilisés dans les classes, les sites internet en priorité. C'est vrai que là, on nous montre différents sites, il y a des choses qui se construisent, et ils vont chercher ça là, en général, mais souvent dans des livres, à partir de reproductions. Beaucoup aussi, j'ai pu constater sur les réponses, disposaient d'un vidéoprojecteur, disposaient d'un TBI, tableau blanc interactif. Mais on a eu une grosse politique sur le département dans les ENR, école numérique rurale, donc même dans les campagnes, beaucoup d'écoles se dotent de ces outils. Donc c'est vrai que là, est-ce que ceux qui m'ont répondu disposaient de ça ? Enfin voilà, hein, après il faut pondérer tout ça, mais c'est vrai que beaucoup d'enseignants, et on voit que leur pratique, moi déjà dans le passé, dans les formations, quand je tombais sur un secteur où je savais que la ville avait mis en place les TBI, les enseignants n'avaient pas les mêmes demandes, n'avaient pas les mêmes pratiques, et étaient beaucoup plus vifs, on va dire, sur l'histoire des arts en tout cas. Les romans jeunesse, les livres d'art pour enfants, et beaucoup de choses personnelles. Un enseignant qui voyage, fait des photos, récupère des documents. Donc énormément m'ont dit, j'ai ma banque, ma propre banque de données. Et puis les plus jeunes, parce que je travaille beaucoup avec les T1, T2, PES, s'échangent tout ça. Ça circule énormément. Et ils se donnent, ils se prêtent, ils s'échangent beaucoup. Et donc je leur ai dit, je peux être le point et qui rediffuse. On a créé un site pour ça, où on va mutualiser, un endroit où on mutualisera toutes les pratiques en histoire des arts. Et donc je pense que comme ça, des choses vont avancer. Leur demande, une banque d'œuvres expliquée aux enseignants. Donc après, à nous de les réaiguiller vers les bonnes... au niveau de la DRAC, on le fait, il y a des choses intéressantes. Une progression de cycle... pour aborder chaque année, alors ils sont beaucoup là-dedans, progression, travail de cycle, une aide à la construction de séances, des supports tout prêts. Bon, voilà. Et surtout en musique, beaucoup m'ont dit, je suis démunie, je ne sais pas quoi montrer sur cette période, quoi faire entendre. Un TBI à demeure, on aimerait bien avoir ça. Et puis besoin d'échanger, de mutualiser, donc voilà, des formations, des stages, hein, c'est pas surprenant comme réponse. Dans leurs remarques, alors les remarques, manque de temps, enseignement chronophage, je l'ai même mis deux fois, mais voilà, ça revient beaucoup. Difficulté pour libérer un créneau horaire, dans cette semaine qui a été raccourcie, amputée du samedi, s'ils sont sur un raisonnement hebdomadaire, ils ont du mal. Souvent, le samedi matin permettait d'avoir des pratiques artistiques plus facilement. Ils bâtissent souvent leurs séances à partir de l'histoire ou de l'art visuel ou des arts visuels. Ils trouvent que c'est difficile à mettre en œuvre parce que ces programmes 2008 sont très chargés. Et puis, une petite phrase que j'ai reprise telle quelle. Depuis qu'il n'y a plus samedi matin, les pratiques artistiques sont plus difficiles à mener. Il y a eu du plomb dans l'aile, des difficultés de temps, timing. Voilà. Donc, mon petit point. Donc là, oui, ça va, je ne mange pas trop sur le temps. Donc, ça va être aussi un petit peu rapide. Écho des écoles. Donc, voilà, je vous ai sélectionné 4 ou 5 choses qui se sont passées, qu'on a pu voir dans les classes. Donc, des pratiques à partir d'une leçon... il me manque un... J'ai dû... Attendez. Parce qu'hier soir, j'ai tout repris. Oui, il me manque ce tableau-là. Pourquoi donc ? Ah non, d'accord. Oui, voilà les 5 choses. Donc, des pratiques à partir d'une leçon d'histoire, comme c'est le plus... on va dire ce qu'on voit le plus, je vous l'ai mis en 1, et puis quelques exemples de choses qui se sont passées comme ça. un module complet, une enseignante qui a voulu monter un module autour d'une thématique, la thématique de l'objet. Donc elle s'est dit, je vais prendre chaque domaine, qu'est-ce que je peux faire dans chaque domaine autour de cette thématique-là. Ce qui est une façon de faire que j'ai vue plusieurs fois. Donc là, c'en est une. Ensuite, une expérimentation un peu originale qui lie les œuvres et l'orthographe, ou la maîtrise de la langue. Vous verrez, ça c'est un peu un petit clin d'œil. Oui. Non, non, ben, je vais le détailler après, en fait, vous allez voir. Ensuite, un travail plus à partir des mots qui sont devenus des supports d'écriture, de poésie, mais aussi de production plastique dans la nature. C'est une classe de CM1 qui est partie là-dessus. Et puis un module autour d'un album Loup Noir qui est beaucoup traité dans les classes. Sur Internet, on trouve des tas de choses sur Loup Noir. Je vous l'ai amené l'album, vous verrez un peu. Et là... c'est une pratique qui a été réfléchie en stage, etc. Donc on a essayé de mettre de l'interdisciplinaire dans cette façon d'aborder l'album. Et donc là, c'est un petit peu le retour de ce qu'on peut imaginer. Donc voilà, le lien histoire des arts. Ce qui les motive, les enseignants, c'est ce qui est demandé, c'est une répartition, ce qu'on va chercher sur le site Histoire des Arts, une répartition chronologique dans le cycle. C'est-à-dire en CE2, j'ai telle période historique, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en lien en Histoire des Arts, en CM1, en CM2. Ben, très souvent, leur progression est chronologique. Parfois, elle est spiralaire, ils vont reprendre, mais c'est assez rare. Mais donc, ils veulent cadrer l'histoire. Hein, cadrer l'histoire et le lien Histoire des Arts. Donc ça, c'est très souvent... Et ils réalisent des frises, histoire des arts. La frise habituelle avec les événements historiques, on en voit de plus en plus qui sont où on lit justement les œuvres et où on va mettre des choses comme ça. Donc voilà, j'avais mis un lien qui ne fonctionnait pas. Donc je suis allée le rechercher. Je crois que c'est là. Oui, voilà. Donc voilà le genre de frise qui peut être réalisée dans une classe avec donc les différentes périodes. Bon, c'est un diaporama, il y a plusieurs images, donc c'est sur le fil à linge dans la salle informatique, vous voyez. Donc chaque siècle et puis les images carrément, voilà, le fil du temps et puis les œuvres qu'on a découvertes au fur et à mesure. Donc ça c'est, on va dire, une façon de faire, mais on trouve beaucoup de ce genre d'outils, c'est-à-dire une frise chronologique, historique, où on va placer aussi les œuvres dont on a parlé. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois. Voilà, donc réalisation de frises. Ensuite, l'idée, c'est d'élaborer des progressions qui vont lier les périodes historiques et les œuvres à faire découvrir aux élèves. Donc là, c'est pareil, je vous ai remis sous forme de tableau un petit peu ce que j'ai vu, les retours que j'ai eus sur, par exemple, le Moyen-Âge. Donc je vais, dans ma progression Moyen-Âge, je vais étudier les grandes invasions, les Francs, Clovis. Enfin, c'est vraiment la progression. Ensuite, je vais voir Charlemagne, Hugues Capet. Donc, j'ai mon déroulement chronologique. Et puis, je mets en parallèle les domaines d'histoire des arts. Bon, en art du langage, je vais pouvoir présenter le roman de Renard. On va pouvoir aller chercher un petit peu ce livre, en lire des extraits, travailler dessus. On va voir aussi le livre au Moyen-Âge, les enluminures, la calligraphie, voir les emmener dans un lieu... Chez nous, on a des lieux comme Gorz où carrément les élèves vont prendre la plume, vont retravailler, se repositionner dans cette période-là. On va voir un peu quels sont les instruments de musique du Moyen-Âge, sous forme d'images sonores, on va les écouter. On va comparer la musique religieuse, faire écouter des chants grégoriens, la musique profane, aller chercher les troubadours, les trouvères. Les édifices religieux, faire un travail autour des églises romanes, des églises gothiques, voir des mosquées, en lien avec les croisades, etc. Donc, et puis, parler de la Dame à la licorne ou d'autres tapisseries qu'on va pouvoir avoir. Donc voilà, un petit peu leur façon de procéder. Ça, c'est tel maître, telle année, va faire cette progression-là. Et puis, sur la période suivante, on va sélectionner d'autres choses. Et là, récemment, c'est vrai qu'on réagit un peu au coup par coup hein, dans le métier de conseiller. On avait des PES, je ne sais pas si ça se passe partout dans le département, donc ces nouveaux professeurs des écoles stagiaires à qui on doit trouver des remplacements longs, qu'on a mis un peu en tutorat une période. Et donc, ils n'avaient pas de remplacement. Donc, tout d'un coup, on a demandé à deux circonscriptions de trouver des classes pour qu'ils puissent travailler. Donc, qui dit trouver des classes, dit mettre des enseignants en formation. Donc, pour ne pas leur imposer une formation, on leur dit « Quelle formation aimeriez-vous ?» Et je me suis comme ça retrouvée du vendredi au lundi avec 12 enseignants qui souhaitaient travailler le lien histoire-histoire des arts. Voilà, c'était leur problématique. Et donc, on a un peu pris 2 semaines, le temps de réfléchir. Et voilà, leur souhait, c'était d'arriver à des choses comme ça, des répartitions, trouver... Alors, on a rebâti des tableaux dans la région. Si j'étudie cette période, dans les arts du langage, ou dans les arts du visuel surtout, dans les arts de l'espace, les arts du quotidien, qu'est-ce que je vais pouvoir montrer, comment le développer? Et on a retravaillé des fiches et donc créé un matériau comme ça, disponible un peu pour tous les autres aussi. Mais c'était leur grosse demande. Donc c'est vrai que quand on pose la question aux enseignants, c'est des formations qui souhaitent plus que la géométrie ou des choses comme ça. Voilà, parce qu'ils se sentent démunis, vraiment. Voilà. Alors, une expérimentation qui s'est passée, toujours, je suis restée sur cette période Moyen-Âge, un lien entre littérature et art visuel. Donc, Yvain, le chevalier au lion, l'enseignant a sélectionné 3 textes, extraits de Chrétien de Troyes, enfin, deux extraits différents, je ne vous ai pas remis, hein, mais... Et puis un troisième texte, c'est le même extrait, mais en ancien français. Et donc, par petits groupes, ils ont dû comparer un petit peu. Alors, ils ne savaient pas au départ qu'ils avaient, les 3 groupes avaient la même chose, finalement. Mais donc, ils ont fait une petite analyse, essayé de raconter ce qu'ils avaient lu, etc. Et ils se sont rendus compte que les 2 premiers textes, déjà, c'était 2 traductions du même récit. Et que le décryptage du troisième, cette fois-ci, les amenait à comprendre que le troisième était écrit en ancien français. Donc c'était assez intéressant, façon de se replacer aussi dans l'époque. On n'écrivait pas le français de la même façon, c'était pas gagné au départ. Et puis, voilà. Et alors là où c'est pas toujours très très interdisciplinaire, c'est que l'enseignant, pour le coup, s'est dit bon, je fais ça en littérature, c'est sur ma période historique. En art visuel, je vais aussi proposer quelque chose. Donc voilà, redessiner la scène, parler de dragons, tiens, un tournoi. Bon, les enfants rentrent là-dedans avec bonheur. Hein. Et donc, en s'appuyant sur d'autres documents, en allant chercher des documents historiques quand même. Et puis, aller chercher les lettrines, les formes des lettres, aller chercher les dragons dans les trésors. Donc, nourrir quand même quelque chose d'intéressant, pas se cantonner à un petit dessin du texte lu, et aller plus loin sur l'enluminure, sur les dragons, sur les tournois. Et puis là, ils sont revenus assez rigolos sur le Graouli de Metz. C'était donc un dragon qui a sévi... à Metz, et on trouve, là vous avez une photo dans la rue Taison, qui est une des rues piétonnes de la ville de Metz, ce dragon qui est là en permanence. On va le retrouver aussi à l'intérieur de la cathédrale, on va le retrouver à différents endroits. Mais donc voilà, de Divin, le chevalier au lion, on est passé un petit peu partout. C'est vrai que le module finalement est assez intéressant, se raccroche à, un petit peu à la région. Et puis là où ce qui est important aussi, c'est de resituer, je pense, l'histoire des arts dans le vécu des enfants. Ce fameux Graouli, ben, on le retrouve sur l'emblème du FC Metz. Bon, il savait pas au départ que c'était le Graouli, que c'était une histoire qui arrivait du Moyen-Âge. Mais je crois que c'est ça qui est important aussi dans l'histoire des arts, c'est resituer des choses dans le vécu des enfants. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont connaître. Et l'histoire du Graouli, on peut aussi aller rechercher le texte. Voilà. Donc, au départ, ça paraît téléphoné. On passe de la maîtrise de la langue, d'un texte en vieux français, un dessin. Mais finalement, on peut gratter un peu et faire des choses intéressantes. Voilà. Donc, un deuxième axe qui a été donc traité, ça, c'est une façon de faire que j'ai trouvé plusieurs fois, c'est-à-dire je me construis un module et je vais le construire dans les dans les six domaines. Donc bon, j'ai mis ça un peu en vrac, son cheminement a été un peu différent. En fait, elle est partie de Karel Mann, que vous connaissez peut-être, il a fait un catalogue d'objets introuvables. Ouais, c'est assez sympa. Et donc, travailler les arts du langage à partir de ce catalogue-là, parce qu'il y a non seulement le dessin d'objets, comme là, les chaussons, pelles et balayettes, enfin, des choses incongrues, rigolotes, mais ce qui est intéressant à analyser, c'est la notice qui va avec, parce qu'il y a un travail d'écriture. Donc, du coup, bon, les enfants sont partis sur un travail d'écriture. J'invente un objet qui n'existe pas, je le dessine et j'en fais la notice. Et puis dans les albums jeunesse, on a des choses vraiment de plus en plus. Il y a des supports intéressants, des illustrateurs qui sont de véritables artistes, comme Frédéric Clément, qui fait des choses extraordinaires. Et donc là, le magasin Zinzin, c'est pareil. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est dans la liste d'œuvres des programmes 2002. Chez nous, ça a été acheté dans toutes les circonscriptions. Donc voilà, où Thibault a fait son musée, c'est pareil. C'est donc des albums qui parlent d'objets. Donc voilà, en art du langage, c'est une classe de CE2, donc elle peut aller loin sur un travail d'écriture quand même. Mais elle est partie là-dessus. Après, donc, dans les arts de l'espace, alors c'est là où c'est parfois... les objets dans l'art, elle l'a traité de différentes façons, et y compris dans le land art, c'est-à-dire où les éléments naturels deviennent des objets plastiques. C'est un peu aussi... Voilà. Ils sont allés découvrir la salle Poirel, qui est une salle de spectacle de la ville de Nancy, qui est intéressante. Et moi, je travaille avec l'ensemble Poirel. J'insiste beaucoup pour que, quand les enfants viennent au spectacle, en fait, ils fassent deux visites. Une première visite qui est déjà la visite du lieu, l'architecture du lieu, qu'on resitue cette salle dans la ville... Enfin, c'est vrai que Nancy est une ville riche hein, de ce côté-là. Donc à chaque fois qu'ils vont sur un lieu, essayer d'aller un peu plus loin. Et là même, ils vont faire trois visites. Ils vont venir trois fois. Une première fois, ils ont rencontré parce qu'ils vont voir aussi une pièce de théâtre. Vous allez voir un peu après. Et donc, qui rencontrent les acteurs et qui découvrent le lieu. Donc là, en art de l'espace, c'était découvrir cette salle. Ensuite, dans les arts du quotidien, donc des objets usuels qui deviennent œuvres d'art, aller voir du côté de chez Armand, Duchamp, Spoerry, enfin des choses comme ça. Et puis faire une sorte d'historique de la vaisselle au fil du temps. Parce que dans le spectacle qu'ils sont allés voir, il y avait des objets issus de la vaisselle. Donc du coup, dans quoi on mangeait au Moyen-Âge, comment on a évolué, quand est née la fourchette, enfin, ils se sont un peu intéressés à tout ça. Mais c'est vrai qu'on a aussi sur Nancy une artiste, Pascale Lelièvre, qui aime bien jouer avec tout ça. Et on pouvait, comme on la connaît, elle est venue aussi dans la classe. Elle leur a fait fabriquer de la vaisselle en aluminium, rejouer sur les formes. Enfin bon, voilà, il y avait un petit travail assez intéressant. Et dans les arts du visuel, aller plus vers le film, pas seulement l'image et pas seulement Donc là, un extrait de Fantasia, donc l'objet, qui, enfin le balai qui commence à vivre, etc. Donc une autre orientation sur les objets. Puis aller chercher bah, les objets dans les œuvres. Hein. On parlait de Spoerry, Armand, mais aussi Tony Cragg, Nevelson, Jean-Pierre Reynaud. Enfin voilà, ce que les assemblages, à introduire un vocabulaire plastique aussi. Et puis les cabinets de curiosité dont on parlait hier. Et quand on est sur le thème des objets. Donc là, bon, je ne vais pas développer. Hein. Voilà des petites choses qu'on peut montrer aux élèves. Qui, Oldenburg aussi, ou Tony Cragg. Comment on recycle, on récupère des objets. Donc ça encourage des pratiques. Et du coup, bon, c'est pas seulement on cite, on montre. Elle a mis les élèves en pratique aussi, avec des objets récupérés, avec une pratique surréaliste aussi. Et puis dans les arts du son, elle est partie évidemment du côté de Pierre et le Loup, où chaque objet, instrument de musique joue le rôle d'un personnage. Mais c'est pas cantonné à Pierre et le Loup, elle est partie aussi sur la version sound painting. Peter and Lupus, c'est assez particulier, mais c'est une enseignante musicienne qui pratique le sound painting. Enfin, voilà. Et elle a fait manipuler toutes sortes d'objets, des objets qu'on a utilisés dans les arts du visuel pour créer des choses, ont aussi les mêmes objets séparés en deux, ont servi à devenir des sources sonores, comment je joue d'un instrument, enfin d'un objet. Et on s'est rendu compte rapidement qu'on arrive à la classification des instruments de musique, des objets à vendre dans lesquels on souffle, des objets qu'on frotte, des objets qu'on gratte, etc. Donc c'était assez rigolo c'est riche en fait. Et puis art du spectacle vivant, bah, pour le coup, les emmener ils ont travaillé avec une artiste, une danseuse, Aurore Cruelle. Et les créations dansées se sont situées à partir d'objets, des objets inducteurs, on va dire, classiquement, le parapluie qu'on a vu hier, ou voilà, le ballon, le foulard, des choses comme ça. Et donc, elle part de ça avec les élèves, et ils font une création. Là, c'est un projet DRAC, un des projets de l'année passée. Et puis, ben, ils sont allés voir un spectacle à la salle Poirel qui s'appelait La Maison, où les objets aussi prenaient vie. Donc, voilà. Et puis, on est parti aussi vers le cirque contemporain. Ça, c'est un petit peu leur montrer un film. Et c'est vrai que le cirque contemporain, on avait un extrait où c'est une pomme qui démarre au début et qui va suivre tout le spectacle. La pomme circule et on a de numéro en numéro, on retrouve cette pomme au fur et à mesure. Donc voilà, l'objet comme lien aussi dans un spectacle. Donc voilà, ça fait un module très complet. Elle a du travail pour une année complète. Et elle va, en cycle 3, 20 heures annuelles, ça ne suffit pas. Hein, quand on dit l'histoire des arts dans les programmes, c'est 20 heures. Donc elle grappille un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle va travailler à la fois les arts du langage, les arts du son. Enfin, elle peut, on peut. Et c'est vrai que ce genre de projet, là pour l'instant, je n'avais pas toutes les images, mais on va essayer de mettre ça encore. Je voulais vous le présenter dans un PowerPoint en quelques minutes, mais avec elle. On a essayé de récolter des images et on va faire un article, on va mettre ça en ligne, parce que c'est on peut dire presque un modèle, enfin un modèle, une expérimentation intéressante. Après, comment d'autres enseignants vont pouvoir rentrer dans d'autres dynamiques, ça c'est presque un travail de stage, c'est-à-dire choisir un autre. Les objets c'est fort, c'est riche, mais il y a d'autres choses qui pourront être traitées de cette façon-là. Voilà. Ça, c'est le petit clin d'œil des œuvres à l'orthographe. Une enseignante de CM2 qui m'a dit en 4 jours semaine, j'ai du mal, je voulais absolument mettre en place quelque chose. Et donc, j'ai choisi de faire découvrir à mes élèves une œuvre par semaine. Cette œuvre étudiée, étudier, vraiment, on peut dire ça comme ça, va leur permettre d'acquérir du vocabulaire et va servir de support à la dictée de la fin de semaine. Donc c'est assez C'est assez surprenant. On n'aurait pas pensé que l'histoire des arts prenne cette forme-là. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que vraiment, les enfants accrochent. Je pensais faire ça comme ça sur une période pour voir un petit peu. Et ils sont demandeurs et ils veulent qu'on continue. Donc, je continue. Et donc là, elle me disait, bon, quelles œuvres je pourrais aborder? J'ai besoin de matériaux, j'ai besoin de... En art visuel, je suis plus musicienne, donc je montre plutôt... Je travaille les œuvres musicales et vous allez voir un petit peu. Mais bon, son constat, c'est que les élèves, pour le coup, une zone très défavorisée, Frouarle, une banlieue un peu difficile, mais les élèves se créent un patrimoine commun, des choses qu'ils connaissent, un corpus de mots, des choses qu'ils mémorisent. Donc c'est un peu anecdotique, mais bon, là, par exemple, ils ont travaillé sur ce tableau, Hercule étouffant les serpents. C'est un tableau qui est au musée Georges de la Tour à Vic-sur-Seille, donc proche. Ils sont allés au musée aussi. Donc l'image n'est pas extraordinaire. Mais elle s'est cherchée aussi. Bon, c'était sa visite de l'année, hein, parce que souvent on fait une sortie par an, hein, quand on habite loin. Donc le musée Georges de la Tour est intéressant, pas pour Georges de la Tour, parce qu'il y a un seul tableau, un Saint-Jean-Baptiste. Il y a plus de tableaux de Georges de la Tour au musée Lorrain à Nancy. Mais ils ont une collection intéressante, notamment des toiles comme ça qui parlent de la Grèce. Et donc là, d'Hercule, ils sont partis dans la mythologie grecque. Et les gens du musée mettent les enfants en situation... pas sur ce tableau-là, hein, mais leur redonne un costume. On va en voir la toche bleue. Ils vont les remettre en situation, les font vivre. Enfin, ils ont des pratiques vraiment intéressantes pour faire entrer les élèves dans une dynamique et faire comprendre une toile. Mais là, on leur a raconté vraiment l'histoire d'Hercule. Ils ont été fascinés. Et elle me disait, ensuite, à la bibliothèque, ils ont cherché... des livres sur la mythologie, ils ont voulu aller plus loin, donc le pari était gagné. Voici la fiche de visite qu'elle a donnée à ses élèves. Donc cet enfant est Hercule, fils de Zeus, la femme, ils ont retenu tout ça, et c'est une histoire un peu particulière où... Zeus a pris l'apparence du mari, a séduit Alcmène, etc. Hercule est né de cette union, et donc il y a toute l'histoire, et ça fascine les enfants. Elle leur explique, et donc voilà ce qu'ils ont retenu, la fiche qui était dans leur cahier d'histoire des arts, on va dire. À partir de ça, elle a repéré des mots intéressants qu'elle voulait qu'ils apprennent bien, la guerre, une femme... L'absence, Zeus, on va retenir ces mots-là. Là, on est sur du vocabulaire, des noms, des verbes. Voilà, elle a un tableau comme ça à chaque fois. Et voici le texte de la dictée qu'elle leur propose. Alors, elle différencie ces dictées, 22 mots, 39 mots, 48, selon le niveau des élèves. Ils n'ont pas tous la même dictée à faire. Mais voilà leur texte de dictée. Voilà, ils partent à la guerre, etc. Donc, bon, voilà. Une façon un petit peu particulière. Je vous en ai mis une deuxième pour vous montrer un petit peu au niveau de la musique. Donc un concerto pour mandoline et cordes de Vivaldi. Donc elle resitue à chaque fois dans les arts du son, l'écoute musicale ou dans les arts du visuel, etc. Elle est sur les 6 domaines. À chaque semaine, elle aborde un domaine différent. Donc voilà, une façon de faire. Donc ce concerto... Elle explique aussi ce qu'est un concerto. Alors, elle m'a dit, j'espère que je ne dis pas trop d'erreurs. Renvoyez-nous vos fiches, on regardera un petit peu. Donc elle va chercher la documentation. Pour elle, c'est un travail assez lourd. Mais du coup, comme elle s'y retrouve bien, elle veut continuer. Donc voilà les mots qu'elle sélectionne, les cordes pincées... Une œuvre composée dans le but de mettre en valeur un instrument. Et puis, elle retravaille les trois parties de façon très musicale. Donc voilà, un petit clin d'œil, petite chose, mais Enfin, moi, je me dis pourquoi pas. Je sais pas votre impression, mais on en reparlera peut-être après. Oui. Donc, je peux encore. J'ai deux. Oui. Un autre projet sur les mots. Donc là, on avait en 2009 proposé à tous les enseignants au niveau départemental un projet qui s'appelait Architecture et Jardin. Parce qu'on s'était dit que les arts de l'espace étaient peu traités, arrivaient comme ça avec l'histoire des arts. Ils ne savaient même pas trop, arts de l'espace, ce que c'est, architecture, urbanisme, jardin. Donc on avait développé ce projet-là et on avait obtenu 15 artistes, donc 15 classes, sélectionné 15 classes pour des interventions d'artistes sur 10 heures. Donc c'était léger. Mais donc, on avait pu monter différentes choses. Bon, là, c'était un petit clin d'œil aussi. C'est-à-dire, l'instituteur a repris des plantes du jardin, comme les pierres. Les pierres, on l'appelle aussi oreille de lapin. Donc, ils ont fait à la manière d'un herbier. Leur exposition, c'était ça. Je reprends les plantes, je vais les chercher. Ou la physalis, qui s'appelle aussi Amour en cage. Donc, voilà, ils ont joué avec... des objets, ils ont recréé un petit peu tout ça. Donc c'était un peu le jeu de mots, aller chercher le jeu de mots, aller chercher dans le catalogue des plantes lesquelles étaient intéressantes à traiter ou pas, ou possibles. Donc ça, voilà. Sinon ça, c'était un projet à plus long terme. Ils sont partis dans les Vosges une semaine et donc ils se sont dit, on va partir des mots. Alors ils ont sélectionné, bon, pas n'importe quel mot, hein, pour des productions plastiques type Land Art. Donc voilà, avec le mot fleur, qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je vous ai sélectionné quelques images. Avec le mot soleil. Donc comment aller des mots? La commande, c'est j'ai un mot et je vais produire quelque chose avec les plantes que j'ai. Voilà. Bon, ils étaient aussi accompagnés d'un enseignant qui est plasticien, donc c'était plus facile. Arbre. Après, des mêmes mots vers des acrostiches. Ça, c'est l'autre enseignante qui était là, qui était plus sur tout ce qui était maîtrise de la langue. Donc, le mot arbre, c'est des petites compositions d'élèves. Arroser les fleurs, réfléchir sur une branche, bouder sous leur écorce. C'est assez, assez frais, assez joli. Regarder sous ces branches barbouillées de pluie. Voilà. De la même façon, ils sont allés des mots vers une production écrite plus conséquente. Bon, comme ils se trouvaient dans les Vosges, là, ils avaient la consigne de mettre le mot arbre, de mettre en action un arbre. Donc là, ils ont inventé toute une histoire puisqu'ils ont visité une scierie sur Noël et son fils Jean. Noël qui décide de fabriquer un cheval en bois. Il n'y arrive pas. Il se perd dans la forêt, il découvre un arbre magnifique, etc. Bon, c'est un peu des histoires d'élèves. Hein. Il lui fabrique son cheval, mais en fait, lorsqu'il le met au pied du sapin, il découvre que ce cheval est vivant. Et donc, il part l'utiliser pour transporter le bois. Et ça, ils l'ont vu aussi que dans les forêts vosgiennes, on transporte encore le bois avec des chevaux. Donc, bon, ils ont retransposé un peu leur visite et ce qu'ils avaient vu vers une histoire. Mais donc, moi, bon, là, c'est pareil, on glisse des arts du langage vers les arts du visuel. On a les mots comme inducteurs, plus. Hein, c'est plus ça. Est-ce que c'est interdisciplinaire? Est-ce que... Bon. Donc là, c'est ce que je vous disais, la cinquième petite... le petit clin d'œil. Des images vers la compréhension d'un album. Donc, il s'agit d'un album... Ça a été fait dans une classe de CPCE1. Et donc là, on a essayé de ne pas... Ouais, c'est cet album-là que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Loup Noir. Antoine Gilopé, il en a fait bien d'autres. On pourra, si vous voulez, le faire passer, le regarder. Et donc, c'est un album, en fait, sans parole, sans texte. Et bon, c'est intéressant avec des CPC1, c'est intéressant avec des CM2, enfin, ça... sur internet, vous tapez Loup Noir, vous verrez toutes sortes de choses, hein, des choses qui ont été faites dans tous les secteurs. Mais donc là, la réflexion qui s'est faite lors d'un stage avec cette enseignante, c'est comment justement ben, proposer des choses en art visuel, en éducation musicale, en travail autour du langage, autour de cet album, qui soit interactive, c'est-à-dire qu'une discipline va aussi servir l'autre. Ce qui n'est pas évident, la plupart du temps, on juxtapose. Hein, on va sonoriser une page, on va proposer un travail plastique en lien avec le travail de l'illustrateur. Mais voilà, là, l'idée, c'était d'aller vers la compréhension du livre par les disciplines. Donc ça, la première piste, c'était sonoriser la quatrième de couverture avec des instruments de musique. En fait, on a le livre, on aurait pu prendre la première aussi, mais qui est plus... le loup, il y a le titre, loup noir, donc c'était un peu gênant. On a pris la quatrième en enlevant même le petit texte, parce que le seul texte qui y est se trouve sur la quatrième. Donc on se trouve dans une forêt, mais comme quand on sonorise, l'image peut être lue comme une partition ou l'image peut être lue comme une description. On a souvent les deux volets. Et donc, bon, ils entrent dans la forêt, ils entrent dans le questionnement. C'est une façon de les solliciter par rapport à cet album. On se met en route. On n'a pas trouvé d'autres aides de l'éducation musicale pour entrer dans la compréhension de l'album. Après, on peut faire un travail plus approfondi. Mais ça... Donc, on s'était dit, voilà, première sollicitation. Une deuxième accroche, en fait, on leur a donné uniquement... trois mots, loup, arbre, enfant. À partir de ces trois mots-là, vous inventez une histoire courte, puisque ce sont des CP, des CE1, et vous la dessinez. Et avec un groupe, on leur a dit, vous inventez l'histoire et ensuite vous la dessinez. Avec l'autre groupe, vous la dessinez et ensuite vous racontez votre histoire. Ce qui ne donne pas des choses égales. Et donc là, par exemple, un petit travail. On voit comme ils réinvestissent des choses qui sont déjà vécues, vues, lues. Un enfant se promène quand soudain il voit un arbre où il y a quelque chose derrière. Il regarde derrière l'arbre et il voit un loup. L'enfant apprivoise le loup et ils deviennent amis. Donc on peut imaginer qu'il a peut-être lu Le Petit Prince. Donc l'idée d'apprivoiser l'animal, enfin voilà. Mais bon... Voilà, un petit peu ce travail. Réalise un dessin pour illustrer ton histoire. Une autre petite histoire. Un enfant voit un arbre, il lui dit « Pourquoi tu restes là ? Je me cache parce que le loup me cherche. » Voilà. Bon, c'est souvent comme ça, très ponctuel. Donc, mais on entre un petit peu dans le questionnement. On se dit « Tiens, qu'est-ce qui peut se passer entre un loup, un enfant et un arbre ? Quelle relation. Donc ils sont rentrés dans une dynamique qui va les aider à comprendre l'album. Ensuite, il y a un travail plastique qui a été proposé. Ils n'ont toujours pas lu, ils n'ont toujours pas ouvert le livre. Et donc, un loup noir sur fond blanc, un loup blanc sur fond noir. On leur donne des feuilles blanches, des feuilles noires, des ciseaux à eux de faire un choix et puis de découper le papier pour faire un loup. Et ensuite, bien sûr, comparer ce qui s'est fait. Là, je vous ai mis les deux images, on va dire, caricaturales. Elles n'étaient pas toutes aussi tranchées. Mais c'est vrai qu'sur une classe complète, on peut remarquer que les loups noirs étaient souvent plus féroces, avec des grandes dents, un peu menaçants, et que les loups blancs étaient plutôt pépères. Voilà. Bon. Et c'est important parce que dans l'album, cette différenciation, elle compte. Pour avoir montré ce livre à d'autres classes, dans le livre, on a ce loup qui est d'abord noir puis blanc. Enfin, ça c'est ma lecture. Mais certaines lectures d'enfants, ils n'imaginent pas que c'est le même. C'est un chien finalement qui arrive à la fin. Voilà. Donc, c'est leur faire comprendre que le choix des couleurs n'est pas anodin et qu'un illustrateur va faire des choix pour le propos qu'il a envie de servir et ce qu'il a envie de raconter. Donc ça, c'est par la pratique plastique qu'on va rentrer dans cette compréhension-là. De la même façon, ensuite, on leur a donné des papiers déchirés, enfin des catalogues. Vous sélectionnez des couleurs de loup, donc vous cherchez dans vos pages des couleurs, enfin des des morceaux de papier qui vont vous intéresser pour représenter un loup. Donc voilà, ils ont pris du noir, du rouge, mais aussi d'autres choses. Hein. Et voilà. Et dans leur production, on a des loups gentils, des loups méchants, des loups... Et donc, on leur a fait réfléchir justement à quelle couleur tu as utilisé, pourquoi il a l'air méchant ton loup. Peut-être parce qu'il y a du rouge, peut-être parce qu'il y a du noir, peut-être parce qu'il a des bijoux sur le dos. Finalement, c'est un loup un peu classe. Plutôt. Donc voilà, pourquoi tu as fait ces choix-là et toujours expliquer un petit peu le travail de l'illustrateur, les choix plastiques en fonction d'une intention. Bon, il se passe évident que les CP aient tous saisi ça, mais on entre dans cette compréhension-là. Et ensuite, on va voir le livre, on va l'ouvrir et on va découvrir les images. Là, je vous ai sélectionné les vignettes où on voit le loup. Et donc, ce loup qui est quand même noir, menaçant. Ils ont fait des choses qui pouvaient ressembler à ça. Donc, il a fait comme moi. Hein, c'est un petit peu ce qu'on va aussi faire quand on propose des séances en art visuel où l'œuvre arrive plus tard et où l'enfant va pouvoir faire des liens entre le travail de l'artiste et son propre travail. Voilà. Et du coup, on peut lire l'album et il y a eu un travail plastique, il y a eu un travail sonore, il y a eu une lecture, des textes. Donc on a travaillé, on va dire, dans trois dimensions, dans trois domaines artistiques à partir d'un album. Et je pense que là, il y a une interaction, on va dire. Il s'est passé des choses, une discipline a pu servir la suivante. Donc c'est un album qui est riche, hein, où on va pouvoir, là c'était pour vous montrer les arbres, on peut travailler des tas de choses, hein, le noir, le blanc, le point de vue, il y a d'autres choses à faire. Hein. Mais là, bon, on s'est cantonné à des choses comme ça. Pour conclure, parce que... Hein, voilà. je voulais aller un petit peu plus loin sur l'idée d'action qu'on a essayé de mettre en place sur le département, parce que j'imaginais que ce stage était un lieu d'échange un petit peu, et donc vous soumettre un peu les idées, les pistes. Donc des choses qu'on a faites cette année. Donc moi, je suis vraiment dans cette idée de chercher de l'interdisciplinaire. Et donc, dans les formations qui nous restent, T1, PES, leur donner des pistes pour que les enseignants débutants se disent « je fais art visuel, je fais... » Donc, les mettre en action sur des choses plus mixées, on va dire. Donc, par exemple, on arrive en leur donnant une pile de journaux. Et à vous, vous n'avez que ça. Vous arrivez dans une classe, ce qui leur arrive souvent. Il n'y a rien, les armoires sont fermées. Vous avez votre pile de journaux, qu'est-ce que vous faites, comment imaginer une séance en art visuel, en éducation musicale, des pratiques sonores, de les possibilités plastiques et sonores du journal, ou alors la danse et les arts. Là, j'ai une formation la semaine prochaine où on parle là-dessus, comment lier les deux, partir de l'atelier de lundi m'aura fait aussi un petit peu... On partait d'œuvres comme inducteur et j'étais aussi allée chercher des œuvres de danseurs. Du coup, c'est intéressant et d'autres choses vont pouvoir rebondir là-dessus. Mais comment on peut trouver des images comme inducteurs, ouais. Voilà. On part aussi souvent sur les arts du cirque, sur beaucoup de stages. Jongler à la fois avec les mots, les images, les couleurs. Et donc ça permet de mixer les choses, des productions intéressantes sur les arts du cirque. Voilà. Une autre piste cette année, alors ça nous a été un peu imposé par la DRAC. C'était du style, cette année, il y aura des projets dans les classes, mais vous baptisez ça construction, déconstruction d'une œuvre. Voilà. Alors, quand on lui a dit, mais vous voyez quoi derrière ça ? C'est tellement vaste que vous pourrez mettre ce que vous voulez. Mais c'est la thématique de la DRAC Lorraine cette année. Donc, au niveau école, collège, lycée, voilà. Donc, les animations que j'ai proposées avec ma collègue cette année, c'était... nous, on l'a lu comme ça. Des pratiques artistiques variées pour décortiquer quelques œuvres et entrer dans une meilleure compréhension. Donc bon, on insiste bien aussi sur l'histoire des arts comme une mise en pratique. Et donc on propose ça. Donc voilà des petites choses, ce qu'on fait pratiquer aux enseignants qui sont en formation. On propose une œuvre, donner trois mots, mettre en son pour dégager la composition d'une œuvre. Donc une sorte de jeu de Kim, on regarde, on éteint, qu'est-ce que vous avez remarqué, etc. Ou aller vers de la vidéo. Ne pas proposer une œuvre, mais plusieurs, pour jouer sur les ressemblances, les différences. Voilà un petit peu ce qui se fait. On a aussi travaillé sur... ça fait plusieurs années qu'on faisait un journal qu'on avait pompeusement appelé « Journal des arts ». Et cette année, il est devenu le journal de tous les arts, parce qu'il était très art visuel. Et du coup, là, on s'est retrouvés pas... Je ne suis plus seule à faire ça, on est six. Donc avec deux collègues en éducation musicale, une collègue qui est... DEA, donc qui est plus dans la pratique, et puis des gens qui peuvent, parce qu'on lance la thématique et ensuite les gens qui ont matière nous aident à fabriquer ce journal. Donc c'est l'idée de développer un dossier dans chaque. Alors on se limite à 7 pages, on veut rester sur un petit format qu'on envoie à toutes les écoles, à chaque période, et on essaie de développer. Une œuvre dans les 6 domaines. Bon, là, par exemple, le premier journal était autour d'Émile Friant. Donc, on essaie de développer ça. Émile Friant, qui est un artiste lorrain, nancéen. Et je l'ai là. Il est sur la clé, JDTA. Ça se présente sous cette forme-là. Donc là, on a redéfini la ligne éditoriale en expliquant qu'on allait aller vers les 6 domaines. Et puis, on a exposé les 4 dossiers qui allaient être développés cette année. Mais on s'est cantonné aussi à 4 rubriques. Une première rubrique qui est à voir ou à entendre. Autrefois, moi, j'allais voir les expos et je disais, il y a matière, allez-y. Enfin, l'idée par ce journal, c'est d'encourager les enseignants à aller sur les lieux culturels, à aller voir les expositions, donc les informer. On n'a pas voulu faire un magazine spectacle, mais plus leur dire là j'y suis allée ou là il va se passer quelque chose de fort que vous pourrez réinvestir ensuite avec vos élèves ou vous personnellement. Donc voilà, le premier module s'appelle « À voir ou à entendre ». Le deuxième, « À lire ou à parcourir », c'est un petit peu nos coups de cœur, les sites sur lesquels on est allé ou des sites qui nous semblent intéressants. Ensuite, côté classe, donc les projets, les formations, les choses de la période. Et puis notre fameux dossier, donc un dossier un peu plus lourd sur une œuvre principalement. Et puis le dernier, côté artiste. Alors pour le premier numéro, il n'était pas prêt. Pour le deuxième, là, on est en train de le... Mais l'idée de poser le même questionnaire à des professionnels du monde de l'art. 6 questions, 5 ou 6 questions, mais toujours les mêmes à un compositeur, un artiste, un sculpteur, enfin aller chercher, voilà. Et donc voilà, le premier dossier là, c'était sur, donc ça c'est les différents concerts, orchestres, à lire, à parcourir, les coups de cœur. Beaucoup ont travaillé sur l'eau noire, mais Antoine Gilopé a sorti un autre livre qui s'appelle Pleine Lune, qui est intéressant aussi, un site. Bon, évidemment, le site de l'exposition Monet, parce qu'il était très particulier, un peu novateur aussi. Un DVD, parce qu'il est sorti un DVD sur la région. On a le centre Pompidou-Metz qui s'est ouvert. Et il y a un petit DVD de 26 minutes qui reprend l'architecture, justement, qui explique la construction. Et donc, art de l'espace, on peut pas passer à côté. Mais là, sous forme d'un petit DVD... Pour ceux, il faut y aller, bien sûr, c'est mieux. Mais là, il est victime de son succès. Hein, les classes n'arrivent pas à y aller, c'est complet. Donc, voilà. Et puis, donc, voilà, les petits projets, un festival de chant choral, donc des choses comme ça. Et voilà le dossier. Resituer le contexte historique et géographique de cet artiste, les caractéristiques de sa peinture... faire un lien avec d'autres personnages ou événements de la période. Et puis on a étudier un tableau en détail. Bon, on n'a pas voulu non plus... on ne peut pas mettre d'image puisque ça part sur Internet, etc. C'est un peu dommage. Enfin, on est en train de voir aussi comment l'agrémenter, mais on est toujours un peu coincé par ça. Mais donc, il y a... au musée des Beaux-Arts, ils avaient une fiche complète hein, sur ce tableau. Mais donc là, on est plus parti sur quelque chose de sommaire, des éléments remarquables. Mais surtout, voilà, ce qu'on a développé, nous, c'est des pratiques possibles pour rentrer dans la compréhension de cette œuvre-là. C'est-à-dire, on ne va pas éviter l'écueil. Je prends une œuvre, j'ai une fiche. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment rentrer dans la compréhension de l'œuvre ? On travaillait sur le portrait, jouer la scène. Là, c'est la Toussaint. Donc, il se passe des choses assez particulières. Travailler sur les contrastes, travailler sur la couleur. Donc, voilà, quelle pratique plastique je peux mettre en œuvre pour entrer dans la compréhension de l'œuvre. Après, on est allé chercher des choses en éducation musicale, faire écouter un requiem. Bon, là, c'est... Voilà. Écouter d'autres œuvres d'époques différentes. On met en réseau aussi avec d'autres choses, avec d'autres toiles qui sont au musée des Beaux-Arts de Nancy, d'autres toiles de Friant, bien sûr. Mais voilà, l'idée de mettre en lien avec d'autres artistes, avec une estampe comme la Grande Vague d'Okusai. Enfin, on fait des liens avec d'autres choses. Ensuite, on parle du cimetière de Préville, qui est un cimetière de Nancy qui abrite Émile Friant, mais aussi la famille Majorelle, Aimé Gallet, Antoine Corbin. Enfin, on fait des liens avec un lieu de Nancy, et aussi avec Philippe Claudel, qui est un auteur que vous connaissez peut-être, qui a écrit « Au revoir, Monsieur Friant », donc où il met en scène la vie d'Émile Friant, enfin, sous forme d'un roman. Et puis, il a aussi un film dont il a été réalisateur, Il y a longtemps que je t'aime, qui se déroule à Nancy. Donc voilà, ouvrir à d'autres choses. À partir d'Émile Friant, on peut ouvrir à d'autres choses. Voilà.